voulons donner l'occasion au Saint-Esprit de pouvoir cristalliser toutes ces paroles dans notre cœur. Que Dieu nous aide à avoir un amour infini pour lui et que cet amour nous amène à le servir de manière désintéressée, de manière fidèle, avec une consécration sans faille. Seigneur, comme nous venons de le chanter, nous avons tant de raisons, Seigneur, de te louer, tant de raisons, Dieu, de t'adorer, tant de raisons de marcher avec toi, car au terme de cette marche, Seigneur, c'est la couronne de victoire, c'est la couronne de vie. Nous avons tant de raisons, Seigneur, de demeurer en toi, Seigneur, et de te servir fidèlement, car c'est le seul moyen d'expérimenter le véritable bonheur, Seigneur, auquel nous aspirons tous. Merci, une fois de plus, ô Dieu, de nous avoir donné cette occasion, Seigneur, de te réjouir avec nos chants, nos cantiques, de t'exprimer nos sentiments d'une manière ou d'une autre. Merci, Seigneur, pour avoir eu une oreille attentive à toute cette louange, à toute cette adoration qui est montée vers toi, Seigneur. Quel bonheur de mettre du temps à part pour te louer, toi, notre Créateur. Quelle joie, Seigneur, quel plaisir de servir un Dieu comme toi. Merci pour tout. Après ce temps consacré, Seigneur, à la louange et à l'adoration, ce temps qui nous a permis d'entrer, Seigneur, dans ta sainte et pure présence, nous voulons maintenant, ô Dieu, tout en étant dans ta présence, nous asseoir humblement devant toi, Seigneur, et te tendre une oreille attentive, afin que par ta parole, tu puisses, ô Dieu, nous visiter puissamment. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais les besoins dans lesquels chacun de nous se trouve. Tu connais nos aspirations, Seigneur. Tu connais, ô Dieu, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Tu connais notre vie mieux que quiconque, Seigneur. Et puisqu'il en est ainsi, tu es le seul qui puisse alors nous donner tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, Seigneur. Nous rencontrer dans nos préoccupations, dans nos attentes. Alors parle-nous, et en même temps donne-nous l'intelligence de saisir ta parole. Parle-nous, et pose ta main, Seigneur, sur ton serviteur, afin qu'il ne soit qu'une simple voix, qu'un écho, Seigneur, de ta voix auprès de ton peuple. Oui, fais-nous du bien, car ta parole est merveilleuse. Nous te le demandons, Seigneur, en ton nom. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur, sans plus tarder, nous allons tourner vers la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler du comment chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire face à toutes les tempêtes de la vie, à tous ces ouragans qui pourraient ou qui peut-être sont là, en train d'essayer par tous les moyens de nous déstabiliser, de nous éloigner de la voie du Seigneur, de nous décourager, de nous emporter loin de lui. Comment faire face à toutes ces tempêtes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et pour nous aider, nous allons essayer d'examiner très attentivement la vie de l'apôtre Paul à un moment bien précis de sa vie, dans une barque, confronté, eh bien, à des tempêtes de plus en plus violentes. Comment cet homme, eh bien, s'est-il comporté? Quelle a été son attitude vis-à-vis, eh bien, de toute cette tempête? Nous sommes donc dans Actes chapitre 27. Nous allons faire une longue lecture pour mieux comprendre comment vous et moi, comment en tant que disciples du Seigneur, nous pouvons faire face aux tempêtes de la vie, car tempête, eh bien, il y en aura toujours. Tant que nous serons sur cette terre, eh bien, l'ennemi ne nous épargnera pas. L'ennemi fera tout. Le monde fera tout. Et mais gloire à Dieu de ce qu'avec lui, il y aura toujours moyen de faire face à toutes ces tempêtes, quelle que soit leur violence, quelle que soit leur intensité. Nous sommes donc dans Actes chapitre 27. Nous allons lire les deux premiers versets. Et puis ensuite, nous irons versets 9 à 25. Nous lisons. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte impériale du nom de Julius. Paul avait demandé, en avait fait appel donc à César, et comme il était citoyen romain, eh bien, il avait le droit d'aller comparaître devant César. Et donc, voilà ce qui justifie, ce qui montre sa présence à bord de ce navire. Monté sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, nous avons donc gagné le large et avec nous se trouvait Aristarque, un Macédonien des Thessaloniques. Nous allons donc au verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centurion ou le centenier se fiait au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la plupart furent d'avis de remettre la voile pour atteindre, si possible, Phénix, port de la Crète, tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet, levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquilon se déchaîna. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent, et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Clodin, nous avons réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi de moyens de secours pour ceinturer le navire, et dans la crainte d'échouer sur la Sirte, on abaissa la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jeta le lendemain une partie de la cargaison et le troisième jour, ils lancèrent de leurs propres mains les ancres du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout, au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir. » Et ne pas repartir de Crète, vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi ou s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et voici, que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera, comme il m'a été dit. Amen. Gloire au Seigneur, et si merveilleux. Comment faire face aux différentes tempêtes que nous pouvons rencontrer dans notre vie? Comment, mes amis, résister à des bourrasques de forte intensité qui se présenteront dans nos vies et qui chercheront par tous les moyens à nous empêcher de nous épanouir, de progresser, d'aller de l'avant. Eh bien, ce récit comporte quelques clés qui vont donc nous permettre de non seulement faire face à la tempête, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa violence, quelle que soit son intensité, mais aussi des clés qui vont nous permettre de triompher de toute tempête, quelle qu'elle soit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme vous le savez tous, frères et sœurs, il y a des régions sur cette terre, des régions qui, de par leur position géographique, leur situation géographique, et en certaines saisons de l'année ou certaines périodes de l'année, eh bien, des régions qui sont constamment balayées, secouées par toutes sortes de vents violents, de vents impétueux, par toutes sortes de tempêtes, et il arrive même de fois que ces tempêtes se transforment en ouragans, en typhons. Et lorsque ces tempêtes se mettent à souffler, elles laissent toujours derrière elles, eh bien, toutes sortes de dégâts matériels, des maisons détruites, des récoltes anéanties, et quelquefois, hélas, de nombreuses victimes. Vous avez certainement vu toutes ces images, soit des États-Unis, soit d'Asie, des gens qui avaient tout perdu parce qu'à un certain moment, une tempête, un ouragan, un typhon, une tornade, eh bien, a tout balayé sur son passage. N'est-ce pas? Eh bien, en dehors de ces catastrophes naturelles, de ces ouragans naturels, eh bien, l'homme, et singulièrement le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, eh bien, subit aussi des tempêtes spirituelles, subit aussi toutes sortes d'ouragans qui se présenteront ou se présentent à lui sous forme d'épreuves, sous forme de difficultés, sous forme de problèmes, sous forme de tracas de tout genre. Ces problèmes, ces difficultés, mes amis, ces montagnes, eh bien, tout cela se présenteront à nous comme des ouragans soufflant de plus en plus fort. Personne n'est à l'abri. Nous pouvons être engagés dans l'œuvre de Dieu. Nous pouvons être consacrés. Mes amis, mener une vie de consécration extraordinaire. Nous pouvons mener une vie d'entière soumission à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, et finir par rencontrer ce genre de tempête dans notre existence. Ce peut être votre cas ce matin. Ce peut être votre situation, mon frère et ma sœur. Vous qui êtes là ce matin, ici à la borne, ou alors vous qui nous suivez. Vous êtes en train de faire face à toutes sortes de tempêtes, à toutes sortes d'ouragans. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Votre barque, à l'instar du navire dans lequel avait pris place Paul, votre barque est de plus en plus ballottée. Elle tangue sous la pression, mes amis, de tous ces ouragans de problèmes, de toutes ces tempêtes de difficultés. Au point où vous êtes en train de désespérer, vous avez essayé par vous-même de tout faire. Vous avez jeté dans la mer certaines choses qui vous étaient précieuses dans le but, eh bien, de pouvoir au moins sauver les meubles, comme on dit, mais rien à faire. La tempête s'acharne de plus en plus. Les adversités, eh bien, sont de plus en plus nombreuses. Il est alors important, mon frère et ma sœur, de voir comment, eh bien, dans ce récit, Paul a eu à faire face à toute cette tempête. Voir comment aussi les choix que nous faisons, qui dans la plupart des cas sont le produit de la sagesse humaine, comment ce choix, hélas, nous conduisent dans la plupart des cas à des situations, à des impasses à peine nommables. Puisque nous sommes tous concernés, puisque tôt ou tard, nous aurons à rencontrer tel ou tel autre ouragan, quelle que soit sa force, il est donc de la plus haute importance pour chacun de nous de savoir comment lorsque cela nous arrivera, ou comment alors que tout cela nous arrive déjà, nous pouvons faire face à ce genre de tempête, et oui, et comment nous pouvons triompher de toutes ces choses. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter, mes amis, vous inviter à aller à la rencontre de Paul dans ce voyage qui était censé l'amener de Césarée jusqu'à Rome. Je vous invite, frères et sœurs, à aller à la rencontre de l'apôtre et voyager ensemble et voir comment lui a fait face dans cette barque ballottée par des houles de plus en plus dangereuses, dans cette barque qui tanguait sous la pression de ce vent impétueux qu'on appelle le raquilon. C'est un vent qui souffle en Méditerranée, de l'est vers le nord, du nord vers l'est, des vents de plus en plus puissants. Avant de voir ce que nous devons faire, l'attitude sage, avant de voir comment Paul, lui, a fait face à tout cela, il y a d'abord ce que nous devons éviter absolument dans notre vie. Ce que nous devons absolument rejeter, c'est qu'il ne faut jamais faire. Eh bien, il ne faut jamais faire, c'est que le centurion Julius a fait. C'était celui qui avait l'autorité sur le bateau. C'était un officier romain. C'est à lui qu'on avait confié la garde et la surveillance, non seulement de l'apôtre Paul, qui devait comparaître devant César en étant prisonnier, mais aussi la surveillance et la garde des autres prisonniers qui étaient à bord de ces navires. Nous allons voir comment, mes amis, nous devrions absolument tout faire pour que l'attitude de Julius ne nous influence pas. Car dans la plupart des cas, nous pouvons nous retrouver dans cette façon de faire au travers du choix, de l'option qu'a levé cet officier romain à bord de ce navire. Paul était enchaîné, comme les autres prisonniers. Ils étaient à bord de ce navire, en route vers Rome, où ils devaient comparaître. Vous voyez? Ils sont arrivés sur l'île de Crète. Nous sommes en Méditerranée. Et comme apparemment il faisait beau, et que le capitaine, le pilote, connaissant très bien, mes amis, maîtrisant très bien la navigation maritime, et en particulier dans cette région du monde, eh bien, a jugé bon de tout faire pour quitter l'île de Crète, aller passer l'hiver au port donc de Phénix. Tout, la météo, son expérience, ses observations, ses compétences, mes amis, tout, eh bien, était là pour l'amener à faire ce choix, à prendre la décision de continuer. Mais à bord de ce barque, parmi ce prisonnier, il y avait un homme qui était tout à fait différent du reste. Certes, il avait le même corps, il avait la même tête, le même sang qui coulait dans ses veines, mais c'était un homme qui appartenait au Dieu vivant. Alléluia. C'était un homme qui avait une relation avec le Seigneur. Paul vivait la proximité avec son maître. Et nous pouvons tout à fait dire, sans l'ombre d'aucun doute, que cet homme, dans cette proximité avec le Seigneur, eh bien, il a pu discerner, il a pu comprendre que malgré l'aspect du temps, malgré le beau temps, malgré la bonne météo, malgré les conditions favorables à la navigation, eh bien, malgré tout cela, il n'était pas sage qu'il puisse lever l'ancre et partir. Un homme de Dieu, certes prisonnier, un homme de Dieu cependant, un homme qui avait compris la nécessité de marcher selon la sagesse qui vient d'en haut, un homme qui avait compris que dans la vie, il y a des situations, mes amis, qui demandent plus que de l'expérience personnelle, qui demandent plus que des compétences, un homme qui avait compris que dans certaines situations, oui, notre compétence peut nous aider. Lorsqu'on fait face à des petites bourrasques, voyez-vous, l'expérience accumulée au fil des années, le fait d'avoir des technocrates autour de nous, des bons conseillers, le fait d'avoir des gens qui nous aident, ou le fait d'avoir nous-mêmes des compétences, pourrait nous aider à affronter certaines bourrasques et à les vaincre, oui ou non. Mais c'est aussi un homme qui avait compris qu'il y a des situations dans la vie qui demandent absolument, impérativement, qu'on se réfère, qu'on recherche, mes amis, la sagesse qui vient d'en haut. Et cet homme a discerné, mes amis, cet homme avait une longueur d'avance par rapport à la compréhension des événements. Il avait une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Il pouvait lire l'aspect du temps au-delà du visible. Et il a mis en garde le centenier, lui qui avait autorité sur le à bord de ce navire. C'est lui qui avait la surveillance, celui qui avait la garde. C'est à lui que revenait le dernier mot. Voyez, même le capitaine devait se référer à lui. Paul leur dit, attention, c'est une erreur fatale que de lever l'ancre. Certes, il fait beau. Voyez-vous, certes, tout montre qu'il y a moyen de pouvoir naviguer, de poursuivre notre navigation. Mais je vous mets en garde. Attention, que leur dit-il? Il leur donne cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour le navire lui-même, mais aussi pour nos propres personnes. Paul n'a pas joué à la boule de cristal, hein? N'est-ce pas? Paul n'a pas rêvé, il n'a pas eu des hallucinations, il n'a pas deviné. Voyez-vous? Paul, sa proximité, son intimité avec le Seigneur, son intelligence renouvelée, l'a amené, mes amis, à lire les événements avant que les événements arrivent. Alléluia. Il les a mis en garde. Mais la Bible nous dit, le centenier, l'officier romain, eh bien, a jugé bon de se fier au pilote, à la décision, à l'observation, à la proposition du capitaine, du pilote, à l'homme qui connaissait parfaitement son navire, oui ou non. Ce n'était pas la première fois que cet homme naviguait en Méditerranée. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouve, mes amis, eh bien, aux commandes de ces navires. Ce n'était pas la première fois qu'il voit un peu le ciel s'assombrir un tout petit peu, qu'il voit un vent souffler. Et donc, nous pouvons comprendre pourquoi le centenier a fait plus confiance à cet homme. Et la Bible nous dit, eh bien, ils se sont mis en route. Et au verset 13, il nous est dit, un léger vent du sud vint souffler. C'était un léger vent. Et pour eux, c'était rien du tout. Mais attention, attention. Le fait qu'il y ait un léger vent, le fait que, bon, apparemment, il n'y a rien, ne veut pas dire qu'il n'y aura rien. Mes amis, nous sommes appelés à marcher par la foi, à nous laisser conduire par le Seigneur et non pas par la vue. Et dans la plupart des cas, nous commettons des erreurs. Erreurs que nous payons cher parce que, mes amis, nous nous laissons conduire par la vue. Nous regardons circonstances. Nous disons, oui, les circonstances nous sont favorables. Nous pouvons avancer. Oui, maintenant, nous pouvons lever l'ancre et partir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, mes amis, nous devrions en tout et pour tout chercher la sagesse d'en haut et nous laisser conduire par le Seigneur et le Seigneur seul. Voyez-vous? Nous sommes toujours constamment sollicités par deux voies contradictoires. Il y a d'abord la voie du monde, la voie de nous-mêmes, la voix des hommes et même la voix du diable, voyez, qui dans la plupart des cas nous amène à compter sur nous-mêmes, nous amène à nous appuyer sur nos compétences, à nous appuyer sur le nombre de conseillers qui nous entourent, n'est-ce pas? À nous appuyer sur notre capacité intellectuelle, sur, eh bien, la capacité que nous avons à maîtriser certaines choses, voyez, cette voie-là est une voie dangereuse qui peut nous conduire très, très, très loin. Et c'est ce qui est arrivé à bord de ces navires. Le centenier a fait confiance à la voie, à la proposition, à la sagesse de l'homme. Une sagesse fondée sur l'expérience. Une sagesse qui s'appuie sur l'homme, voyez-vous. Et c'est comme ça qu'il a rejeté l'avertissement du serviteur de Dieu. Et il a demandé à ce que le pilote, eh bien, mette le gaz, lève l'ancre et parte. La deuxième voie c'est la voix de Dieu. Alléluia. C'est la voix qui nous vient d'en haut. Et cette voix-là s'exprime au travers de la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchée, la parole de Dieu méditée, la parole de Dieu enseignée. C'est au travers de cette parole, mes amis, que cette voix s'exprime. Et ça sera à nous de faire le choix. Voyez, cet officier romain a dû choisir entre deux options. Soit suivre le conseil de Paul et rester, ou alors suivre le conseil du pilote, du capitaine, de l'homme qui maîtrisait le bateau, de l'homme qui était habitué à traverser la Méditerranée en tout temps, de l'homme quelque part qui avait toute l'expérience, toutes les compétences requises. Voyez, mes amis, voilà ce que nous devons éviter absolument. Voyez, nous appuyer sur nos expériences, nous appuyer sur nos sentiments, nous appuyer sur nos capacités. Combien se retrouvent aujourd'hui dans des situations difficiles parce qu'un jour ils avaient fait un choix irrationnel, un choix fondé uniquement sur leur capacité cérébrale, sur leur capacité à discerner les choses, que ce soit dans le domaine affectif, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine du ministère. Combien se retrouvent dans des situations difficiles parce que par rapport au ministère, ils ont fait des choix comme Lot. Ils ont regardé là où tout était vert. Vous voyez, la verdure. Voyez, ils se sont dit, formidable, si nous allons ouvrir une église là-bas, comme il y a beaucoup d'hommes d'affaires, comme il y a beaucoup de Congolais, eh bien nous remplirions l'église en quelques mois. C'est marcher par la vue. Voyez-vous? Nous ne devons pas être des opportunistes. Ouvrir des églises parce qu'on nous suggère de les ouvrir. Mais ouvrir une église parce que c'est sur injonction du Seigneur. Parce que là, il y a un besoin. Voyez-vous? C'est comme ça que certains se sont retrouvés dans des marigots où sévissaient toutes sortes de caïmans. Avec des petites pirogues. Qu'est-ce que vous voulez? Faire face à des crocodiles, à des prédateurs comme ceux-là. Lorsque vous êtes sur un petit radeau, de rien du tout. Il suffit qu'un de ces crocodiles remue sa queue pour que tout... Maintenant, si Dieu vous envoie, eh bien, même sur ce radeau-là, le crocodile ne pourra rien faire. Alléluia. Nous devons donc, mes amis, apprendre des décisions à la lumière de la parole de Dieu, à rechercher conseil auprès de ceux qui marchent avec Dieu. Voyez, à tendre une oreille attentive aux conseils de Dieu. Paul, eh bien, leur a donné un conseil qui devait venir forcément de Dieu, car Paul n'était pas, n'avait pas la capacité, ou ce qu'on dit, comme on dit en français, il n'avait pas le don d'ubiquité. Il ne pouvait pas être en même temps dans le navire et en même temps être à Phénix pour savoir que, eh bien, il faisait mauvais et puis enfin dire aux gens, attention, ne vous en faites pas. Il n'avait pas le don de doublement ou de quitter son corps, comme certains le prétendent. Voyez? S'il a donné ce conseil, c'est sur inspiration de Dieu, car Dieu connaît tout. Il reste le maître des temps et des circonstances. Il connaît les choses avant que les choses. Celui qui a inspiré son apôtre pour mettre en garde ces gens-là. Mais hélas, ils ont fermé leur oreille à l'avertissement du serviteur de Dieu. Et la conséquence du choix fait par le centenier, du choix fait par le pilote, le capitaine, choix fondé uniquement sur des ressources humaines, eh bien, le navire, à un certain moment, se retrouvait, eh bien, confronté à des vents de plus en plus impétueux, et notamment face à ce vent qu'on appelle, à cette tempête qu'on appelle Euraquilon, soufflant de plus en plus fort, ballotté, et le bateau a commencé à tanguer, mes amis, ballotté de toutes parts. Et les passagers à bord, mes amis, tous désemparés, tous dans le désespoir. Et comme pour rien arranger, la Bible nous dit, eh bien, la nuit, eh bien, ni le soleil, ni les étoiles n'est paru pendant plusieurs jours. Il y a des choses qui nous arrivent comme ça, où tout est noir, tout est sombre. Voyez ? Et dans des moments pareils, la sagesse humaine ne sert à rien. Mes amis, tempête, épreuve, difficulté, s'abattent sur nous sans que nous puissions rien faire pour les éviter. Voyez ? Nous avançons dans la vie. Il n'y a que le Seigneur qui sait exactement ce qui nous attend demain, ce qui nous attend après-demain. Il n'y a que Dieu, mes amis, qui sait où nous devrions être. C'est pourquoi, avant de faire un choix, prenez soin de prier, prenez soin de vous tourner vers le Seigneur. Allez voir vos responsables spirituels, parlez avec eux. Ne fondez pas votre choix uniquement sur une prophétie ou sur une vision. L'ennemi pourrait vous en donner une. Simplement pour vous écarter, simplement pour vous éloigner et pour vous avoir plus tard. La sagesse humaine est impuissante face à des tempêtes de cette nature-là. Elle peut nous aider lorsque nous faisons face, comme je l'ai souligné, face à des petites bourrasques, à des petits vents. Nous résistons, oui ou non? Nous résistons, nous avançons, voyez? Eh bien, nous défions ces petits vents. Mais il y a des tempêtes, il y a des ouragans. Il y a des typhons, mes amis, en face desquels notre sagesse, eh bien, ne servira à rien. Nos compétences, le nombre de conseillers autour de nous, notre famille, et même notre église ne pourra rien faire. Voyez, c'est ce qui est arrivé à ces gens-là. Le premier jour, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de leur mieux pour ceinturer le navire afin d'éviter le naufrage. Ça n'a pas suffi. Vous voyez? Le raculon a continué à souffler. Deuxième jour, cette solution n'a pas suffi. Vous voyez? Deuxième jour, qu'ont-ils fait? Ils ont décidé, bien à contre-cœur, mes amis, d'alléger le navire, de jeter du bateau tout ce qu'ils avaient. Certainement qu'il y avait des objets de valeur, oui ou non? Ils se sont débarrassés de tout. Leur sagesse n'a pas suffi. Ils ont tout perdu. Voyez, mes amis, là où la sagesse du monde, la sagesse des hommes, pourrait nous conduire. Le troisième jour, eh bien, ils ont fini par lancer les agres, c'est-à-dire tout ce qui constitue, tout ce qui tournait autour du bateau lui-même, les poulies, les cordages, les voiles, eh bien, tout cela, ils ont jeté cela dans la mer, toujours dans le but de trouver une solution. Même ça, ça n'a pas suffi. La sagesse humaine est incapable, mes amis, de nous aider à faire face à des tempêtes de cette nature-là. La sagesse humaine peut nous aider jusqu'à un point. Au-delà, il faut absolument la sagesse d'en haut. Voilà pourquoi Jacques nous exhorte de rechercher absolument et par tous les moyens cette sagesse qui vient d'en haut. C'est la seule qui puisse nous mener à être en phase avec la parole de Dieu, en phase avec la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà ce que nous ne devrions pas faire. Faire comme Julius, l'officier romain. Il avait l'autorité sur le navire. Il avait autorité sur tous ceux qui étaient à bord de ce bâton-là. Voyez, il s'est appuyé sur l'expérience du capitaine et du pilote, sur ses compétences, sur sa connaissance, sur sa maîtrise de la navigation maritime, de la météorologie, tout ce que vous voulez. Cela n'a pas suffi. Alors, mes amis, évitons d'agir. Évitons de réagir comme ce Julius-là. Alors, que faut-il faire? Eh bien, c'est là que Paul devient un exemple pour nous, alléluia. C'est là que l'attitude de Paul, sa certitude, mes amis, sa confiance totale et absolue dans le Seigneur, c'est là que cela, eh bien, est appelé à nous servir d'inspiration, de modèle. Alors que tous les autres passagers ont perdu leur illusion, alors qu'ils sont dans la détresse, et alors qu'ils ont perdu leur courage, alors qu'ils s'attendent au pire, ils se disent finalement, il ne reste que le bateau coule et que nous disparussions. Un homme fait la différence parmi ces gens qui sont, mes amis, dans la détresse, ces gens qui ne savent plus quoi faire, qui attendent. Je suis convaincu que certains ont invoqué leur divinité, certains ont essayé d'agiter leur talisman ou je ne sais quoi. Eh bien, un homme, lui, au lieu de se laisser abattre par ces vents, par cette tempête, la Bible nous dit, un homme debout, alléluia, fait face à la tempête, fait face à Héraclion. Cet homme, l'apôtre Paul, il va proclamer premièrement, avec certitude, qu'il appartient à Dieu. Alléluia. Il appartient à Dieu. C'est ce qu'il leur dit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Paul est sûr. Il appartient à Dieu. Pas n'importe quelle divinité. Pas n'importe quel Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui tient le monde entier dans sa main. Paul savait que ce Dieu-là n'était pas du tout menacé par le raquilon. Ce Dieu-là, mes amis, n'était pas du tout menacé par la mer en déferlant. Pas du tout. Ce Dieu-là avait la maîtrise sur toutes les forces de la nature. Il était capable de dire un mot et les choses s'est calmées. Alléluia. Certainement que le récit de ses ancêtres qui avaient traversé la mer Rouge après que Moïse, sur instruction du Seigneur, ait élevé son bâton, ce Dieu-là, mes amis, qui avait fait souffler un vent puissant, qui avait ouvert les eaux de la mer de Jonque pour frayer un chemin à Israël, il savait que ce Dieu-là était le même qu'il servait. Alléluia. Et qu'en étant dans ce bateau-là, ce Dieu-là était avec lui. Malheur à ceux qui ont des idoles. Une idole reste figée dans l'espace et dans le temps. Voyez-vous? Malheur aux adorateurs de Jupiter. Ils ne pouvaient pas prendre, eh bien, Jupiter et l'emmener avec eux à bord de ses navires. Mais heureux l'homme dont le Dieu de la Bible est Dieu. Car celui-là, mes amis, il est partout. Où que nous soyons, il est avec nous. Nous pouvons nous retrouver dans une barque, mes amis, une barque ballottée par toutes sortes de vents, tant que nous lui appartenons, tant qu'il est pour nous, tant qu'il est avec nous, tant qu'il est en nous, aucune tempête ne pourra nous emporter. Aucune tempête ne pourra nous empêcher d'accomplir sa volonté. Le Dieu à qui j'appartiens. Quelle certitude, mes amis. Vous savez, c'est dans des moments pareils que notre foi est véritablement testée, éprouvée. C'est beaucoup plus facile de dire Jésus à qui j'appartiens lorsque tout baigne dans l'huile, lorsque tout marche, roule comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait ça, hop, on claque simplement le doigt et puis la solution est là. Oh Seigneur, tu es formidable. Avant même que je te demande une chose, tu me la donnes déjà. Gloire au Seigneur. Avant même que j'aille chercher le travail, que je constitue ma lettre de motivation, ben, tu m'as ouvert la porte. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas? C'est bien. Et nous aimerions aimer que tout se déroule de cette manière. Nenni, hein? Comme disent les Belges, nenni, hein? Non, hein? Ça ne se passera pas toujours de cette manière. Nous aurons à faire face à des bourrasques de plus en plus violentes, à des tempêtes de plus en plus violentes, mes amis, car c'est là que notre foi va être éprouvée. Pourrions-nous dire avec l'apôtre Paul, lorsque nous sommes dans un contexte difficile, que Jésus à qui j'appartiens est avec moi. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers se présenter à moi et m'a dit. L'ange est apparu à Paul. L'ange a rassuré Paul. L'ange est venu de la part du Seigneur. Mes amis, où que nous soyons, le Seigneur ne nous quitte jamais de ses yeux. Il n'y a rien qui puisse, comme nous l'avons vu le vendredi, aucune épreuve ne peut nous envelopper au point d'empêcher Jésus de nous voir. Il nous voit toujours, alléluia. Et à un moment difficile, Paul a eu besoin d'être rassuré, d'être renouvelé. Et l'ange l'a rassuré. Voyez-vous, quant à l'issue de cette situation, l'ange lui a dit, Paul, tu vas arriver à Rome. Quand l'ange lui parle, quand l'ange lui dit qu'il va arriver à Rome, la tempête souffle encore, oui ou non? Eh bien, le navire tangue de plus en plus. Des houles de plus en plus dangereuses s'abattent contre le navire. Cependant, l'ange lui dit, tu arriveras à Rome. Quelle certitude! Pourquoi l'ange pouvait-il lui dire cela? Parce qu'il venait de celui, il venait de la part de celui qui tient le monde entier dans sa main. Alléluia! De celui qui est tout puissant, qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'ange est venu lui dire, dans ce problème, ne t'en fais pas Paul, tu vas arriver à Rome. Oh, nous avons besoin de certitudes. Et de telles certitudes ne peuvent nous venir que de la part du Seigneur lui-même. Et pour les avoir, il faut un lien, mes amis, un lien avec ce Dieu-là. Il faut que nous disions avec l'apôtre Paul, le Dieu à qui j'appartiens m'a envoyé sa parole pour me dire, prends courage, va de l'avant, alléluia. Première certitude, Paul, tu vas arriver à Rome. Mais pendant qu'il lui donne cette parole, eh bien, le navire est toujours ballotté, le navire est toujours secoué par Euraquilon, est toujours ballotté par toutes sortes de houles, par une mer déchaînée. Et deuxième chose que l'ange lui dit à propos de l'issue de cette situation, non seulement tu vas arriver à Rome, mais Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Personne de ceux qui naviguent avec toi ne mourra. Tous auront la vie sauve. Mes amis, il a fallu avoir beaucoup de foi pour après se mettre debout, dire aux gens, ne vous en faites pas, il n'y a que le bateau qui va être perdu. Vous et moi, nous arriverons à destination. Voyez? Dieu te fait grâce. Il te donne, il t'accorde. Ceux qui naviguent avec toi, aucun ne perdra la vie. Mes amis, en Jésus-Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous appartenons au Dieu très haut, au Dieu tout-puissant, alléluia. Tant que Dieu est en nous, tant que Dieu est avec nous, tant que Dieu est pour nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, et quelle que soit, mes amis, la tempête qui souffle contre nous, tant qu'il en sera ainsi, eh bien, nous serons toujours, nous aurons toujours des ressources pour faire face à cette tempête, et plus que faire face, pour triompher d'elle. Alléluia. Car celui qui est en nous, celui qui est assis sur le trône, est celui qui a vaincu. Alléluia. Et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Aucune tempête, aucun ouragan, aucune tornade ne pourra nous emporter, mes amis. Certes, il peut arriver que la tempête finisse par emporter nos biens tangibles, nos biens matériels. Voyez-vous, mais jamais la tempête pourra triompher de nous. De toute façon, quand bien même il arriverait que cette tempête emporte nos biens matériels, nos biens financiers, emporte tout ce qui est tangible, mais le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est notre héritage pourra nous le donner ou nous le redonner demain et cela au centuple. C'est pourquoi ne nous attachons pas à ces choses matérielles. Mes amis, les gens qui étaient dans ce navire ont tout perdu. Quand ils sont arrivés à Rome, ils n'avaient rien. Hein? Voyez, rien, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Vous n'avez aucune assurance que votre maison, vous la garderez ad vitam aeternam. Hein? Vous n'avez aucune assurance que vous garderez votre travail pendant 10, 15, 20 ans. Vous n'avez aucune assurance, mes amis, que vous garderez tout ce que vous avez. Mais il y a une chose que nous ne pourrions jamais perdre. Tant que nous sommes en Christ, c'est la victoire. Tant que lui est notre héritage, quand bien même nous perdrions ces choses, ce sont les choses matérielles. Il nous en redonnera d'autres. C'est qu'il attend de nous ce que nous ayons nos yeux fixés sur lui. Que nous puissions avoir nos regards posés sur lui. Quand tout est pour tout, nous cherchons à accomplir sa volonté. Gloire à Dieu. Nous pouvons tout perdre. Mais tant que Dieu est notre héritage, eh bien nous aurons tout. De toute façon, sachez une chose. C'est que lorsque le Seigneur est mort à la croix, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il ne nous a pas légué une terre. Il ne nous a pas légué des maisons. Il ne nous a pas légué de l'argent, oui ou non? Oui ou non? Non, il ne nous a pas légué toutes ces choses. Il nous a légué le plus extraordinaire des héritages, l'héritage le plus fabuleux. C'est que par sa mort et par sa résurrection d'entre les morts, il a ouvert une voie pour nous amener à Dieu et qui permet à Dieu de devenir notre Père. Et Dieu étant devenu notre Père, eh bien tout ce qu'il a est à nous. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre lorsqu'il nous arrive de perdre quoi que ce soit. On peut vous reprendre une maison, on peut vous reprendre un travail, on peut vous reprendre de l'argent. Mais on ne pourra jamais vous reprendre celui qui est en vous. Et tant que lui est là, ce qu'on vous reprend aujourd'hui, lui est capable de vous le redonner au centuple. Alors ne tournez pas de regards inquiets. Le monde est toujours là pour prendre. La devise du monde, c'est donne. C'est pourquoi c'est une chose terrible que d'être au service du monde. C'est une chose terrible que de servir le monde. Le monde vous sourit aujourd'hui. Hein. Le monde est avec vous aujourd'hui. Hein. Le monde vous acclame aujourd'hui. Hein. Le monde danse pour vous aujourd'hui. Mais croyez-moi, tôt ou tard, les mêmes qui auront dansé pour vous seront le premier à vous tourner le dos et à cracher sur vous. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui a nourri tant de Juifs, qui a fait tant de miracles, eh bien, à un moment, les mêmes gens qui avaient mangé, les mêmes gens qui avaient été au bénéfice de sa puissance, ont été les premiers à dire, « Crucifie-le !» Tolingi était. Nous ne voulons pas de lui. Ça, c'est le monde. Le monde est terrible. Sers Dieu, mon frère et ma sœur, car lui ne t'oubliera jamais. Il ne te tournera jamais le dos. Même quand la terre tout entière deviendrait ton ennemi, il y a toujours une place réservée au rocher inébranlable. Alors va t'appuyer sur ce rocher-là. Car lorsque tu es sur ce rocher, eh bien, même la coalition la plus puissante qui soit ne pourra jamais vous déplacer. La terre entière peut vous tourner le dos, mais celui qui est mort à la croix sera toujours pour vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est notre héritage. Dieu est notre plus grand bien. C'est pourquoi, mes amis, restons attachés à lui. Ne nous laissons pas distraire par ce que le monde offre, par ce que le monde nous fait miroiter, par ce que le monde pourrait nous donner. Ce qu'il nous donne avec la main gauche, il nous le reprend avec sa main droite. Mais Dieu ne se répand pas de ce don. Alléluia. Quand il donne, il donne généreusement. Regardez aujourd'hui, même ceux qui, à l'instant où nous sommes ici, en train de le louer, de l'adorer, en train d'écouter sa parole, même ceux-là qui, au moment où nous sommes ici, sont en train de se remplir de l'otoukou, de toutes sortes de liqueurs fortes, sont en train de se livrer à des actes immoraux, même ceux-là, il leur a fait la grâce d'être en vie. C'est un Dieu formidable.
Alléluia.
Mes amis, je vais m'arrêter là. Le Seigneur nous a frayé un chemin par sa mort, chemin qui conduit à Dieu, qui nous amène dans une relation filiale avec le Créateur des cieux et la terre. Et ce Créateur en Jésus est devenu notre héritage. Alléluia. Il devient notre bien. On peut nous reprendre ce que nous avons dans la main. On peut nous reprendre ce qui est avec nous. Mais personne ne pourra nous reprendre le bien le plus précieux que nous avons, à savoir le Seigneur de gloire. Alors mon frère et ma sœur, eh bien, ce qui a permis à Paul de tenir face à cette tempête dangereuse, violente, heure à Quilon, c'est le fait qu'il appartenait à Dieu, alléluia, et qu'il le servait, ça nous verrons la fois prochaine, et qu'il le servait, gloire à Dieu, le Dieu à qui j'appartiens. Si tu appartiens au Seigneur, mon frère et ma sœur, eh bien n'hésite pas à le proclamer haut et fort, n'hésite pas à le manifester par une attitude positive face à la tempête. Au lieu de commencer à tourner de regards inquiets, au lieu de commencer à tourner en rond, à murmurer, à essayer de charger tout le monde en disant que ah oui, mais c'est la faute de celui-là, c'est la faute de celle-là. Au lieu de tout cela, regarde à celui qui est assis sur le trône. Alors tu auras une attitude positive dans cette tempête-là et tu pourras aller de l'avant. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu de ce que nous qui lui appartenons, eh bien nous avons tout de notre côté pour faire face à toutes sortes de tempêtes, à toutes sortes d'ouragans. Alors, mon frère, toi qui passes par des moments difficiles, si tu es avec le Seigneur, si tu appartiens au Seigneur, je te prie de rester ferme, de le proclamer, de le manifester. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de te discréditer auprès des autres, de cracher sur son témoignage. Non. Regarde au Dieu créateur. Regarde à celui qui est assis sur le trône. Pendant que nous avons nos têtes inclinées, je voudrais demander à tous ceux qui se trouvent ou qui se retrouvent dans une situation difficile à cause des mauvais choix qu'ils avaient faits en amont, et aujourd'hui en aval, ils sont en train de connaître toutes sortes de choses. Votre barque est de plus en plus ballottée par la tempête. Vous êtes en train de perdre des choses qui jusque-là, eh bien, avaient de la valeur pour vous. Vous voulez vous repentir. Vous voulez implorer le pardon de Dieu. Vous voulez dire, Seigneur, je me suis trompé. J'ai agi comme Julius en comptant sur moi, en m'appuyant sur la sagesse des hommes. S'il te plaît, pardonne-moi et viens et aide-moi à tenir bon jusqu'à ce que tu interviennes et tu calmes la tempête. Si tel est ton cas, je vais te demander de te mettre debout et nous allons prier pour toi. Alléluia. Mauvais choix qui t'amène aujourd'hui à te retrouver dans cette situation difficile. Ou alors, tu es là, malgré les bons choix que tu as faits, eh bien, ta barque est ballottée, la tempête est de plus en plus forte, et tu as besoin que le Seigneur t'encourage, tu as besoin que ta foi soit consolidée, soit fortifiée. Tu peux toi aussi te mettre debout, et nous allons prier tous ensemble, alléluia. Oui, il est le seul qui puisse calmer la tempête. Il est le seul qui puisse nous donner la victoire sur toute tempête, quelle soit d'ordre spirituel, d'ordre matériel, d'ordre financier, d'ordre familial, d'ordre affectif. Avec Jésus, il y a moyen de faire des exploits face à n'importe quel ouragan de la vie, face à n'importe quelle tornade dans notre existence. Nous allons lever nos mains et nous allons prier. Et je vais prier pour vous. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur. Merci, ô Dieu, de ce qu'avec toi, nous pouvons faire face à n'importe quel type de tempête dans notre vie. Avec toi, Seigneur, nous pouvons non seulement faire face, mais triompher de tous les ouragans. Je te prie, ô Dieu, de soutenir tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux, ô Dieu, dont la vie est sérieusement secouée par des tempêtes financières, des tempêtes affectives, des tempêtes affectives, par des tempêtes familiales, que tu soutiennes tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Et en même temps, je te prie de pardonner tous ceux, Seigneur, qui se retrouvent dans cette situation parce qu'ils avaient fait de mauvais choix, parce que, Seigneur, ils avaient été motivés, oh Dieu, par la chair, parce qu'ils se sont appuyés sur leur expérience, sur les conseils des hommes, et aujourd'hui ils sont en train de le payer très cher. S'il te plaît, accorde-leur ton pardon, et en même temps, lève-toi de ton trône, et va, oh Dieu, à leur rencontre, pour calmer ces tempêtes, dans le nom de Jésus, que ta paix inonde les cœurs de tous ceux qui se sont mis debout aujourd'hui, pour, Seigneur, faire appel à toi. Oh, tu es celui qui dit un mot, et la chose s'accomplit. Dis seulement un mot, et la tempête se calmera. Dis un mot, Seigneur, et le typhon disparaîtra. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Merci aussi, Seigneur, de poser ta main sur ce service des offrandes, que ce soit une occasion pour nous de t'apporter, ô Dieu, ce que nous avons préparé. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.